raconte. Christophe Ondelatte.
Aujourd'hui, l'histoire d'une légende du sport extrême, Marco Siffredi, qui se tue à l'âge de 23 ans dans l'Himalaya, après s'être lancé le défi le plus fou de la Terre, grimper sur le toit du monde, l'Everest, et redescendre par la voie la plus difficile, en snowboard, d'en haut jusqu'en bas. Dans cette histoire, je voudrais surtout que vous ne vous laissiez pas impressionner par les mots. Marco régnait sur une discipline qu'on appelle aujourd'hui le freeride, mais ça n'est rien d'autre que ce qu'on appelait autrefois le hors-piste. Il pratiquait le freeride en snow. Autrefois, on disait le surf des neiges, mais c'est la même chose. Il n'y a que les mots qui ont changé. Voici donc cette histoire, l'histoire du James Dean des sommets, que j'ai écrite avec Simon Veil, réalisation Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
C'est une histoire qui commence par une tuile, comme une malédiction. Un dimanche de mars 1981 à Chamonix, le petit Marco n'a que 2 ans. Son grand frère Pierre, 17 ans, vient de recevoir ses nouveaux skis, des atomiques. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va les essayer, pardi, avec son copain Laurent. Le temps est merdique, on n'y voit pas à 2 mètres, il fallait pas y aller, et pourtant ils y vont. Et sous l'aiguille pourrie, la bien nommée, ils se font prendre dans une avalanche. Laurent, le copain, s'en sort miraculeusement, mais pas Pierre Siffredi. On retrouve son corps le lendemain. Voilà. Et du haut de ses 2 ans, le petit Marco Siffredi ne comprend pas tout de suite, bien sûr.
« Dis papa, il est où Pierre ?»« Ben, il est parti en montagne. Pourquoi il revient pas ?»
Le père baisse la tête, embarrassé. Comment expliquer ça à un môme de 2 ans ? Quelque temps plus tard, au journal télévisé, on annonce une terrible avalanche en Suisse, pas loin. Marco est devant la télé.
« Papa, c'est comme Pierre ?»
Il a compris. Il a compris tout seul. Mais est-ce que la mort de son grand frère Pierre va empêcher Marco d'attraper le virus? Le virus des Siffredi, le virus de la montagne? Évidemment non. Les Siffredi ont ça dans le sang. Grimper d'une manière ou d'une autre. Grimper et redescendre. Et grimper encore, toujours plus haut. Le grand-père Ernest Sermé, a participé à la construction du premier téléphérique de l'Aiguille du Midi, après-guerre. Et le père du petit Marco, Philippe, est guide de haute montagne. Et coiffeur, en même temps. Et surtout, tout petit, Marco voit les copains de sa sœur Chouti débarquer. Des beaux gosses, le teint hâlé, les cheveux en pétard, qui roulent des mécaniques avec leurs planches sous les bras.
Oh putain, on revient du Gervais. Tu vois, c'est un peu expo au sommet, mais la neige avait juste transformé ce qu'il fallait. C'était géant, monstre bon.
Ils étaient jeunes, ils étaient beaux. Et Marco a tout de suite eu envie de leur ressembler. Et le Gervais, le couloir mythique du Gervais Zouti, sur le Mont Blanc du Tacul, à plus de 4000 mètres, est devenu son Graal. Les pentes à plus de 50 degrés, un toboggan naturel. Et donc à 15 ans, Marco Siffredi déclare
« Le ski, c'est un sport de dinosaure !»
Il aura comme ça jusqu'au bout de sa courte vie le sens de la formule.
Oh, mais moi, je comprends pas les gens dans leur vie pépère. Y a pas de risque. C'est nul.
Alors voilà. Marco a 16 ans et il vient de recevoir sa première planche. Physiquement, il a déjà le look qui va avec. Les cheveux en pétard, peroxydés, ou parfois rouges, ou parfois verts. 2 boucles d'oreilles et un piercing sur la langue. Et ses premiers virages? Eh bien, il les fait sur les pistes du Brévent, à Chamonix, avec une blondinette aux allures de surfeuse californienne qui s'appelle Stéphanie et qui deviendra sa compagne. Et 2 lascars du même tonneau, Philippe, 1m90, un peu frimeur, et Bertrand, beaucoup plus discret. Ils ne restent pas longtemps sur les pistes, ces 3-là. Une piste noire, même à Chamonix, ça fait maxi dans les 30 degrés. C'est pas assez raide. Très vite, il leur faut du 45 degrés, puis du 50, du 55 et même du 60 degrés. La règle, il faut que ce soit extrême. Et quand est-ce que ça commence, l'extrême?
Le snowboard extrême, pour moi, ça part du moment où t'as plus le droit à l'erreur. T'arrives à un moment où c'est un peu comme un alpiniste ou un solo, je pense. C'est qu'il n'y a que toi qui est là pour assurer ta sécurité. Donc soit tu le fais bien, soit tu le fais pas. Mais il faut assurer. Autrement, si t'assures pas, c'est cuit.
C'est ça qu'il veut faire. Ne plus avoir droit à l'erreur. Si t'assures pas, c'est cuit. Et à Chamonix, il n'est pas le seul. Ils sont pleins à vouloir faire de belles traces, à vouloir monter le plus haut, par l'itinéraire le plus difficile, et descendre en faisant le saut le plus périlleux. Et d'ailleurs, c'est comme ça que son frère Pierre, mort dans cette avalanche quand il avait 2 ans, voyait la vie lui aussi. Et d'ailleurs, quand il rentre le soir de ses virées en montagne, Marco feuillette le grand classeur vert où Pierre racontait ses exploits. Et tous les ans, tout seul, il va dans la montagne, devant la plaque qu'on a vissée dans la roche de l'aiguille pourrie, à la mémoire de Pierre. Il y va comme pour conjurer le sort. Et à voix basse, il se dit « J'ai pas le droit de me planter. J'ai pas le droit de me planter. » Et un jour, son copain Bertrand lui donne un livre. « L'abominable homme des glaces ». C'est une autobiographie d'une légende du ski extrême, Jean-Marc Boivin, JMB. Je sais pas si vous le connaissez, mais dans le monde de l'extrême, c'est une légende absolue. Un type qui a filé le virus à toute une génération. Alpiniste, skieur de l'extrême, spéléologue, Boivin a descendu l'Everest en parapente. Il a établi un record de plongée sous un glacier. Il a ouvert 200 voies à ski dans les Alpes, grimpé 4 fois le Mont Blanc par 4 faces nord en moins de 20 heures. C'est le plus complet de tous les cascadeurs de l'extrême. C'est déjà lui qui avait filé le virus à Pierre. Et maintenant, c'est le nouveau héros de Marco, 16 ans. Comme lui, il porte un bandana rouge. Il a même fait graver ses initiales sur ses vêtements, JMB, et il récite les bons mots de son nouveau modèle, comme au catéchisme.
Si tu risques rien, où est l'intérêt?
Ou encore,
à trop jouer à la roulette russe, on finit par trouver la balle.
Une précision tout de même. JMB, Jean-Marc Boivin, s'est tué à l'âge de 39 ans en 1990 lors d'un saut en base jump au Venezuela. Le héros du jeune Marco Siffredi est donc mort au combat. Et donc le voilà au printemps 1997, il n'a pas encore 18 ans, qui fait le grand plongeon dans le monde de l'extrême. Marco a installé son QG sur le glacier rond, sur l'aiguille du Midi. Il monte par le téléphérique à 3842 mètres et il redescend en snow. Et il remonte et il redescend. Il peut faire comme ça jusqu'à 4 descentes par jour. Et ses parents le regardent descendre à la jumelle depuis le balcon de leur chalet, la trouille au ventre, pensez-vous. Ils ont déjà perdu leur fils aîné. Et maintenant Marco qui se lance. Et l'autre, quand il arrive en bas, qu'est-ce qu'il fait? Il sort son portable.
Allô, maman? C'est bon, je suis arrivé.
Et maman vient le chercher en voiture. Et elle le ramène au pied du téléphérique.
Et maman, prévois des sandwichs la prochaine fois. J'ai la dalle.
Et c'est reparti. La vérité, c'est qu'à Chamonix, Marco et son copain Philippe se font vite une réputation d'enfant terrible. Le look, la tignasse peroxydée ont fini par attirer les caméras de zone interdite. Les deux phénomènes de la vallée apparaissent un soir en prime à la télé sur M6. On interroge le père.
Philippe Siffredi, c'est dur d'avoir un fils qui a une telle passion? Quand il part, j'ai mal aux tripes. On a toujours la crainte qu'il revienne pas. Mais c'est bon pour lui d'être là-haut, alors on supporte. Après, je suppose qu'il va essayer de faire plus dur. Il risque d'arriver une catastrophe.
Et pendant ce temps-là, les vieux de Chamonix, les guides burinés, les pisteurs, les moniteurs, qui les voient débouler à toute berzingue au bord des pistes, les traitent de tous les noms.
Garde-moi ça, là. C'est des petits cons, tout ça. Des petits cons.
Cette année-là, en 1998, le petit con décroche un BEP. Et donc Marco va se réinscrire au lycée pour la suite. Et il arrive au bureau de la secrétaire avec un bouquet de fleurs, parce qu'il a quelque chose à lui demander.
Françoise, faut pas s'inquiéter hein, si on est un peu en retard pour la rentrée, parce que on part pour l'Amérique du Sud.
Et oui, à Chamonix, Philippe et Marco commencent à tourner en rond. Alors ils ont décidé d'aller se mesurer à la cordillère des Andes. Et ça commence par le Toclarajú, au Pérou. Et là, ça passe crème. C'est leur premier 6000. Et après, ça enchaîne direction la Bolivie, où cerise sur le gâteau, ils sont accompagnés par une équipe de télé de M6 qui veut les filmer sur un autre sommet à plus de 6000, le Huayna Potosí, à 6088 mètres exactement. Mais l'affaire tourne au fiasco. Marco ne prend pas du tout la chose au sérieux, il a fait monter de nouvelles fixations sur sa planche, il ne les a même pas essayées et ses chaussures ne rentrent pas dedans. Il est impossible de redescendre. Philippe fait une tentative mais sans succès. M6 se contentera d'images de leur montée vers le sommet, mais pour la descente, faudra repasser. Tout ça pour dire que dans leur genre, Marco et son copain Philippe sont deux sacrés branleurs. Et donc retour en France. Et là, les deux inséparables s'éloignent un peu l'un de l'autre. Philippe, en tout cas, a décidé de devenir guide, alors que Marco, lui, ne veut toujours pas rentrer dans les clous. Une rivalité ? Peut-être. En vérité, on ne saura jamais, puisque Philippe meurt quelque temps plus tard, dans une avalanche. On l'enterre dans le même cimetière de Chamonix où repose déjà Pierre. Un cimetière de gamins. La mort rôde autour de Marco. Et lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il prétend qu'il a sa philosophie.
Mais dans la vie, t'as des crédits à épuiser, c'est un peu comme au flipper, hein ? Ça passe, ça passe, ça passe, et puis un jour, c'est le jour où ça va pas passer. Game over !
Et donc, il va continuer à bouffer ses crédits. Il s'est lancé un nouveau défi, le Nan Blanc de l'Aiguille Verte. Une pente qui défie les lois de la gravité. Un seul a osé la descendre en ski, il s'appelle Jean-Marc Boivin, c'est son idole. Il essaye d'engrainer deux autres surfeurs dans l'aventure, qu'il envoie tous les deux boulets.
Oh non, non ! T'es trop jeune, Marco, c'est trop risqué, c'est suicidaire, faut pas y aller ! Eh ben les gars, bravo ! Si à 20 ans on fait pas des trucs un peu fous, c'est pas à 50 qu'on va s'y mettre. Vous tenez des discours de vieux cons.
Donc, il descendra tout seul. Marco Siffredi se lance le 17 juin 1999 à midi et demi. C'est la descente la plus difficile de sa vie. Des pentes à 60 degrés, une neige dure comme du béton. Ses parents, ses sœurs et ses amis le suivent angoissés à la jumelle. Concentration maximum à chaque virage. Mais il l'a fait. Et il rentre dans la légende.
Ben, après 3 années de ragots sur mon compte, je suis bien content d'avoir cloué le bec à tous ces Mickey.
Mais le soir, Marco dira à un de ses copains.
La coco, j'arrête. Hein. J'étais vraiment à l'arrache. Hein. C'était super hard, je peux te le dire.
Arrêtez, tu parles. En vérité, il n'en est pas question, car il s'est mis une nouvelle idée dans la tête. Il veut descendre l'Everest en snowboard. Il a donc décidé de descendre l'Everest par le couloir Hornbein. Et pour vous dire à quel point c'est une folie, Jean-Marc Boivin lui-même, son héros, disait que c'était irréalisable. On lui conseille d'aller voir Russell Bryce, surnommé le vieux renard, le patron d'une agence de Chamonix qui propose des expéditions clés en main sur des sommets de plus de 8000 mètres.
Russell, je veux descendre le Hornbein sur l'Everest. Faut que tu m'aides. L'Everest ? Oh, c'est sûr, c'est très bien. Mais tu peux pas le faire d'un coup. Il faut t'acclimater à l'altitude. Faut d'abord que tu fasses un autre 8000 mètres pour t'entraîner.
Ok. Il écoute Russell et il jette son dévolu sur le Chōhoyū, le 6e sommet le plus haut du monde, à 8201 mètres entre le Népal et le Tibet. Et il embarque dans l'aventure son copain Bertrand. Les deux compères attaquent la montée à l'automne 2000, avec Russell. Au dernier camp avant le sommet, Russell veut faire demi-tour.
Il y a trop de neige les gars, c'est trop dangereux, on se replie, hein, on remontera quand les conditions sont meilleures. Ah mais nous on monte, hein. On est là, on essaye. Ok, vous prenez vos responsabilités. Mais je vous préviens, si vous partez, vous êtes viré de l'expédition.
Ils vont patauger seuls, sur 100 mètres, dans la neige. Et ils redescendent tout penauds.
Russell, je suis désolé. On veut profiter de ton expérience. On aurait dû t'écouter. On a eu tort.
À partir de ce moment-là, une complicité s'installe avec le boss. Et ils remontent, et ils en bavent.
Ça caille bien. C'est qu'à 8000, ça fracasse bien. On a bien chié. Enfin, ce putain d'Everest qu'on va rider un de ces quatre. Et voilà, quoi. Bien content d'être là. Et la journée, le bilan, c'est pas facile de monter à 8000 et de rider à 8000, je pense. Surtout quand il y a des conditions pareilles.
Et ils redescendent jusqu'en bas, en snowboard. Marco et son copain Bertrand ont signé leur premier 8000. Et le prochain, eh ben, c'est l'Everest. La descente du Hornbein est prévue pour le printemps 2001. Marco essaye d'embarquer à nouveau son copain Bertrand, mais Bertrand se débine. Tant pis, il ira tout seul, avec Russell.
Il y aura beaucoup de neige, Marco. Mais toi, tu peux le faire.
Marco rejoint l'expédition de Russell Bryce au Népal le 30 mars 2001. Il a tout lu sur le couloir de Hornbein. Il a potassé les cartes, les livres, les photos. Mais quand il arrive au camp de base, il regarde le couloir et il doit se rendre à l'évidence. Des vents à 100 km/h balayent le couloir. C'est de la glace, c'est de la glace vive. À ses amis, au téléphone, il dit
« Bob, pour le Hornbein, on oublie !»
Il décide alors de se rabattre sur le couloir Norton, qui porte aussi le nom de voie Messner. Il déploie son télescope, il observe le couloir de haut en bas.
Merde ! Putain, où est-ce qu'on va surfer ?
Il n'y a pas assez de neige. Le 22 mai, Marco Siffredi fête ses 22 ans au camp numéro 4, à 8300 mètres d'altitude. Et le lendemain, à 2h du matin, il s'élance par moins 35 degrés. En montant, il croise 3 cadavres gelés. La mort rôde autour de lui. À 6h du matin, il est en haut, seul. Il a semé tout le monde, Russell et tous les autres. Marco a grimpé comme une bombe jusqu'au sommet de l'Everest, à 8848 mètres. Et maintenant, la descente. Le couloir Norton est juste en dessous, 1800 mètres de dénivelé. Entre-temps, le journaliste Jean-Marc Porte l'a rejoint. Il prend la photo historique, Marco, qui s'élance dans le Norton. Personne n'a jamais fait ça avec un snow. Personne. Les 100 premiers mètres sont très délicats. La pente à 40-50 degrés est glacée, les rochers affleurent. Russell le suit au télescope et le guide par radio.
Sous la gauche, là. Évite le rocher, Marco. File à droite. Oui, à droite, voilà. C'est bon.
À un moment, une sangle de sa fixation lâche. Alors Marco se remonte à coups de piolet vers un Sherpa qui lui rafistole la sangle avec un couteau. Et c'est reparti. Le voilà à 8600 mètres. Marco doit franchir des barres rocheuses pour accéder au couloir. C'est le point de non-retour. Il rate un virage et il finit 2000 mètres plus bas. Eh bien, vous n'allez pas le croire. 4 heures plus tard, il est au camp de base, vivant. Jamais un homme n'a descendu l'Everest aussi vite. Marco Siffredi vient de signer à 22 ans une première historique. Et vous savez ce qu'il dit au photographe qui a immortalisé son départ tout en haut ?
C'est génial qu'il y ait des photos, parce que là-bas, à Cham, personne m'aurait cru.
À Chamonix, la nouvelle se répand en moins de 2. Ce petit con de Marco a réalisé un exploit. Et quand il rentre, eh ben, sa vie a un peu changé. Il est devenu une vedette. Il signe des autographes. Et d'après vous, il va en rester là? Eh ben, non, bien sûr. Il le dit à un de ses copains.
Et le Norton, c'était pour m'entraîner. Il me reste toujours le Hornbein.
Pour une expédition comme celle-là, il lui faudrait de l'argent, il lui faudrait des sponsors, et les sponsors traînent des pieds, c'est trop risqué, c'est trop dangereux. Mais lui, il veut partir cet été, au mois d'août. Mais partir avec qui? Avec l'argent, c'est l'autre question. Dans l'idéal, Marco voudrait partir avec Russell, qui l'a accompagné dans son premier exploit. Mais Russell n'est pas libre.
Attends encore une année, Marco. Attends des sponsors pour partir. Comme ça, une ou deux personnes pourront t'accompagner. Tu auras plus de chances de réussir. Il faut que quelqu'un te guide au télescope avec une radio. Attends, Marco.
Mais Marco n'a pas le temps d'attendre. Alors tant pis. Il partira avec trois Sherpas qu'il connaît bien, c'est tout. Et d'ailleurs, l'été qui précède, il les fait venir tous les trois à Chamonix dans le camping de ses parents. Furba, le chef des Sherpas, est sceptique. Lui-même n'a jamais gravi l'Everest à l'automne. Une dernière fois, Marco essaye d'engrainer son copain Bertrand. Mais une dernière fois, Bertrand lui dit non. Pour l'argent, il tapera dans les économies de la famille. Il prendra le minimum. La veille du départ, Marco organise un grand dîner avec ses proches à Chamonix. Et le lendemain, le 7 août 2002, il s'envole pour l'Everest. Le 8, il est à Katmandou. Et deux jours plus tard, c'est le départ pour le Tibet, avec les trois Sherpas qui vont l'accompagner là-haut. Une dernière nuit dans un plumard, et le voilà au camp de base. Petit coup de fil à Chamonix.
Allô ? Je suis bien arrivé ! Tout va bien ?
En fin d'après-midi, l'Everest émerge derrière les nuages. Quatre jours plus tard, c'est le départ. Des yaks portent les gros tonneaux remplis de ravitaillement et de matériel, et Marco porte son surf sur le dos. Le voilà au camp de base avancé. Ce qui l'inquiète, c'est qu'à la lunette, il balaye l'Everest du regard. Il y a des avalanches. Il a beaucoup neigé, ça tombe de partout. Les Sherpas partent les premiers vers le col nord. Pour l'instant, à 5000 mètres d'altitude, Marco a trop mal à la tête pour les suivre. Il les rejoint quelques jours plus tard. Et puis ils sont tous contraints de redescendre à cause du mauvais temps. Voilà maintenant à 7500 mètres d'altitude. Au téléphone, Yann, qui lui fait des points météo depuis Chamonix, lui annonce qu'un créneau se dessine.
T'as plusieurs jours devant toi, Marco. C'est le moment.
Normalement, Marco est censé attendre l'arrivée d'un copain de Chamonix, Olivier, qui s'est décidé au dernier moment. Olivier qui emporte avec lui une lettre de sa maman. Mon chéri, repère-le bien ce Horbein. Fais attention à toi. Et vivement dans un mois et demi. Maman, mais il y a ce créneau météo. Alors tant pis, il n'attendra pas, il ne lira pas la lettre de sa maman. Le 7 septembre, Marco est au camp 3, à 8300 mètres. Il réussit à appeler son ami Bertrand sur son téléphone satellite.
Bébé! Je touche le Horbein, il est là. La neige est top, j'ai une super pêche.
Ok, man. Demain, appelle pas trop tôt, hein. Attends que je sois levé.
Juste après, la batterie du téléphone rend l'âme. À partir de ce moment-là, Marco est seul au monde avec ses trois amis Sherpas. Dimanche 8 septembre, 14h10. Marco arrive au sommet. L'un des Sherpas filme la scène. Marco lève sa planche en signe de victoire. À 15h, Marco chausse son surf. Son ami Furba lui lance.
Take care, Marco! Ok, Furba! À plus tard!
Marco emplit ses poumons d'un bol d'éternité. Et il s'élance, À 15h15, depuis l'arête nord, les Sherpas le voient pour la dernière fois. La suite n'est qu'une trace qui se perd à 8700 mètres d'altitude. Voilà donc pour cette histoire qui s'achève, cette fin qui n'en est pas une, puisqu'on ne sait pas ce qu'il est advenu de Marco Siffredi. Et je suis avec Bertrand Delapierre, qui a réalisé un très beau film sur Marco Siffredi, qu'on retrouve aujourd'hui en coffret DVD. Marco Siffredi, Bertrand Delapierre était votre ami, vous avez débuté ensemble, je l'ai raconté dans le Freeride. C'est vous le bébert qu'il appelle... presque juste avant de se lancer, vous êtes presque son dernier coup de fil avant sa mort. Vous n'étiez pas avec lui, vous n'avez pas voulu faire cette descente avec lui. Pourquoi ?
Eh ben, peut-être que j'étais pas assez, ou enfin, j'étais trop tendre entre guillemets, et que c'était vraiment son graal à lui. Et avec des fois, on sent pas forcément les choses à 100%, et des fois, faut dire non, ça c'est pas pour moi quoi.
C'était son truc à lui et pas votre truc.
Enfin, forcément mon objectif. Ouais, voilà. Donc après, pas mal de fois, il avait des projets auxquels je m'associais, et c'était plutôt lui le moteur en fait, hein, pour être honnête. Et des fois, la barre était un peu trop haute pour moi, et peut-être que je l'ai compris même plus tard, après coup en fait. Après, on se cherche peut-être plein d'excuses, et puis finalement, pour être quand vieilli, on trouve les bonnes raisons quoi en fait. Mmh. Donc vraiment, moi je peux le dire facilement maintenant, il avait un degré au-dessus du mien. Donc
vous voulez dire sur le plan technique ou sur le plan de l'engagement, de la volonté?
Je dirais les deux, parce que c'est un technicien, mais après il y a beaucoup de bons techniciens, je dirais, dans ce milieu-là. Et après, les gens qui franchissent le pas en fait, qui font pas forcément du freeride mais plutôt du ski de pentraide ou du snowboard de pentraide, c'est là où il y a une différence entre faire des choses raides et des choses raides engagées, en fait. Voilà, il y a comme un gap ou un précipice entre les deux.
Il avait un truc que vous n'aviez pas, quoi.
Oui, on peut dire ça, ouais.
On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'il est tombé au début ? Est-ce qu'il est tombé au milieu ? Est-ce qu'il a failli arriver au bout ?
J'ai plaisir à me dire qu'il n'est pas tombé, qu'il est arrivé autre chose, en fait. Comme ça, on garde cette image du snowboarder qui tombe quasiment jamais, quoi.
Donc, autre chose, une avalanche.
On l'aurait vu, mais après la très haute altitude, c'est assez complexe. Il suffit de pas grand-chose pour que ça parte au drame, en fait. Donc une fixation qui marche plus, il y a plus personne pour l'aider. Après un autre problème avec une bouteille d'oxygène qui aurait pu il aurait pu tomber dessus. Enfin, voilà, il y a pas mal de. Après, quand on sait pas, voilà, on peut en des heures, on peut spéculer sur différentes possibilités. Mais là, ouais, moi, je dirais que. Je reste dans un problème technique qui l'empêchait d'aller plus loin. Puis après, la nuit venant, le froid, et la fatigue, voilà. Après, il y a des gens qui s'endorment, voilà, au bout de
des fois. Une forme d'ivresse de l'altitude.
On peut dire ça, ouais. Vu que bon, après c'est ma vision des choses, mais il est tellement allé loin, c'était vraiment son graal du moment. Voilà, après il s'est laissé aller. Après qu'on est l'altitude, on peut vite, il y a une espèce d'euphorie, et après, on se laisse partir, entre guillemets, quoi.
Et donc, il est là-haut, depuis 2002, gelé, comme les corps qu'il avait croisés lui-même, en montant.
Ouais, tout à fait, ouais.
Bon, on trouve ça sur l'Everest, des corps gelés.
Et oui, il y a des corps qui jalonnent les voies normales. Après, dans des voies un peu plus techniques, il y a beaucoup moins de monde, donc là, il y a moins ce problème-là, quoi.
Il y a zéro chance qu'on le retrouve jamais, sur le Horbagne, puisque personne n'y est allé depuis.
Le jour où il y aura de nouveau des expéditions qui montent dans l'Orbagne, il y en a eu dans les années 80-90, mais depuis ça se perd un petit peu en fait les voies techniques sur l'Everest en fait. Maintenant le graal de l'alpiniste, c'est plutôt des voies très techniques sur des sommets un peu plus bas en fait, un peu moins haut.
Sa famille, ses parents évidemment doivent vivre avec ça, une mort sans corps.
Ouais, donc ça c'est pas facile, je pense pour eux, enfin même pour les
pour les copains aussi.
Les copains, ouais, de pas savoir où il est et pas avoir une vraie fin à l'histoire, en fait. Donc, c'est toujours dans le flou, quoi. Mais peut-être qu'un jour, on a retrouvé un des pionniers de l'Everest, Mallory, et Norton, en fait. Donc peut-être qu'un jour, on le retrouvera. Ouais, voilà.
Et on l'enterrera.
Oui, ben oui. On le mettra
avec Pierre et avec Philippe.
Ben après, ça va être...
Et avec Mallory.
En très haute altitude, c'est dur de descendre des corps, en fait. Voilà. Donc peut-être qu'on ramènera quelques effets personnels. Mais le corps, j'ai comme un doute. Parce que c'est vraiment là où on survit, en fait. Et se mettre en danger pour ramener un corps, il y a peu de chances qu'on le descende. Quoi.
Sauf que depuis 2002, personne n'a tenté de repasser en snow par le Horbein. Personne.
Non, personne. Par contre, il y a deux skieurs qui ont essayé de faire le fameux Norton, qui est déjà un couloir très très compliqué et qui malheureusement un des deux est décédé aussi sur une erreur technique. Donc,
et l'autre n'est pas arrivé en bas.
Ben l'autre a le présence d'esprit de rebasculer sur la voie normale, quoi. Ça montre bien que c'est pas, même si on banalise l'Everest après à plus de 8000 mètres, ça reste quand même une entreprise un peu complexe. Dès que tout d'un coup, il y a un petit grain de sable, quoi.
Je voudrais qu'on parle de la vocation de Marco pour le freeride en snow. D'abord, une première chose. Moi, je connais plein de gens qui font du snow, ils n'attendent pas 16 ans. Il y a des gamins de 10 ans qui se lancent dans le snow. Lui ne commence qu'à 16 ans. Pourquoi si tard?
Parce que je pense que ses parents n'ont pas poussé, en fait. Vu l'histoire familiale, c'est quand même compliqué de pousser un deuxième garçon à aller faire de la montagne. Enfin, pousser ou même entraîner. Et puis, il y a des vocations tardives. Et puis, il a pratiqué d'autres sports avant. Et puis, il s'y est mis après rapidement.
Mais petit, il n'est pas du tout attiré par la montagne. On raconte dans le bouquin qu'il y a des opportunités, enfin, bêtement, des randonnées. Ça ne lui plaît pas du tout, l'effort physique, à la base.
Non, même au début, quand il a commencé le snowboard, la montée, c'était pas son truc. Et puis, petit à petit, il a compris que s'il voulait faire d'autres descentes un peu plus exotiques, entre guillemets, il fallait monter. Et après, il était assez même doué en altitude, en très haute altitude. Parce que généralement, on est bon sur ces altitudes-là. Un peu plus tard, à 30-40 ans, lui à 20 ans, il avait déjà une vitesse d'ascension assez impressionnante sur les 8000.
Et j'ai un peu l'impression que, à 16 ans, finalement, l'histoire de son frère aîné Pierre, qu'il n'a pas vraiment connu, dont il a un souvenir extrêmement confus, puisque il a 2 ans quand Pierre meurt dans cet avalanche, au lieu d'être un repoussoir, devient une sorte d'aimant.
Alors un aimant, c'est, je sais pas si c'est le raccourci était un peu rapide, mais en tout cas, c'est de se confronter après à ce qu'on n'a pas connu ou de suivre les pas d'une filiation, ça peut peut-être aider, ouais, tout à fait.
C'est vous qui lui faites passer le virus en lui donnant le bouquin de Jean-Marc Boivin.
Oui, alors après, est-ce qu'on est un passeur ou pas? Moi, c'est l'histoire de Boivin m'avait impressionné aussi, donc. Et puis à Chamonix, on vit dans ce microcosme d'aventurier. Donc, j'aurais pu passer à quelqu'un d'autre un bouquin, il l'aurait lu et pas aimé. Et serait... Après, voilà, il y a plein de.
Le terrain était favorable.
Oui, voilà, ouais. Donc fertile, entre guillemets, on peut dire ça, quoi.
De Pierre, il en parlait?
Il en parlait un petit peu, notamment parce que c'est donc les copains alpinistes de Pierre étaient toujours vivants, en fait. Et donc. Ils lui ont passé un peu quelques leçons, en fait, voilà, pour conjurer le sort, en fait, et faire que Marco vive plus longtemps que son frère, en fait. Puis voilà, c'était un peu le petit frère qu'il fallait peut-être aider en sous-main, entre guillemets, quoi.
Les parents, j'ai essayé en écrivant cette histoire de me mettre 2 secondes à leur place. C'est quand même terrible ce qu'ils vivent, ils ont perdu un fils. Alors ce sont des chamoniards, c'est-à-dire qu'ils connaissent le risque de la montagne, évidemment. Et Philippe, le père, est guide de haute montagne. Mais ils perdent un fils. Après, il y a 2 filles, donc une sorte de pause. Et puis arrive Marco, et il récupère le virus de Pierre.
Oui, c'est peut-être la suite logique du... je dirais que peut-être que le père voyait en Pierre le guide que Philippe... Enfin, en fait, Philippe n'exerce pas, en fait, comme guide. Et peut-être qu'il avait envie que Pierre le fasse. Et donc, tout d'un coup, quand un jeune blondinet se met à la montagne, il s'est dit peut-être, voilà, je vais vivre un petit peu ce que j'ai pas vécu à l'époque, pardon. Mais après, c'est super courageux, hein, quand moi aussi maintenant je suis père, hein, de, et quand si mes enfants allaient en montagne, ça serait pas la même. J'aurais peut-être plus peur que quand moi j'y allais, en fait. Donc,
c'est-à-dire que si votre fils, vous avez un fils?
Oui.
Si votre fils vous dit, à 14 ans, papa, je veux rider en snow, comme toi, vous serez obligé de le laisser partir.
Eh ben, en tout cas, j'essaierai de lui donner un peu des clés pour qu'il fasse des choses plutôt, enfin, un peu plus dans les règles de l'art que ce qu'on faisait à l'époque. Parce que moi, mes parents n'étaient pas montagnards. Le père de Marco ne l'a jamais accompagné, en fait. Donc, il a tout découvert par lui-même, en fait. Donc, moi, j'essaierai en tout cas de lui donner un peu plus de clés, quoi. Après, en sachant très bien qu'à Chamonix, voilà, c'est une espèce d'émulation du plus-plus. Donc, voilà, il faut. Pour faire avec, mais oui, je serais pas forcément très. J'aurais un peu peur, c'est sûr.
Alors, il y a quelque chose, évidemment, qui, pour des gens comme moi qui pratiquent pas le sport extrême, est extrêmement difficile à comprendre, c'est l'aspect suicidaire. C'est-à-dire qu'il y a un risque nettement supérieur à ce qu'est la vie quotidienne des gens. On a tous le risque de mourir tout à l'heure. En voiture, en traversant la rue, tout ça, on le sait. Mais là, le risque est multiplié par 1000. C'est-à-dire que dans la descente de l'Everest, vous l'évaluez à combien vous le risque de mourir, par exemple?
Alors pour moi, c'est ce que vous racontiez tout à l'heure, quand il m'a appelé la veille en me disant « Demain, je suis au sommet de l'Everest, avec de très bonnes conditions de neige », je lui ai dit cette fameuse phrase où ben, « M'appelle pas trop tôt, parce que tu vas me réveiller ». Donc moi, je pensais vraiment que...
Il y arriverait.
Si il arrive au sommet avec sa planche et la neige, et comme il me l'a décrite, il n'y a pas de souci... Pour lui, la descente serait une, entre guillemets, une formalité.
Donc le risque, c'est zéro pour vous?
Pas le risque. Il n'y a jamais de risque zéro, mais beaucoup moindre que ce qu'il avait fait l'année précédente au Norton, ou quand il s'était engagé dans les descentes de l'Aiguille Verte, où c'était plus raide, plus, avec des mauvaises conditions. Donc pour moi, le contrat était presque rempli, voilà, au sommet, parce que vraiment, très fort technicien, et l'engagement de descendre tout seul dans une phase comme ça, c'était pas... Pour lui, c'était gagné. Mais encore une fois, voilà.
Quand vous voyez ce que je veux dire quand j'ose employer ce mot suicidaire, c'est est-ce que il était, vous étiez vous-même un peu trompe-la-mort?
Après, c'est que cette confrontation avec le danger un peu pas ultime, mais le danger un peu complexe, oui, c'est qu'on s'en sort entre guillemets. Oui, c'est assez gratifiant entre guillemets, mais. S'il a fait tant de choses, c'est qu'il n'était pas forcément suicidaire, puisque si on est suicidaire, on peut pousser très loin le bouchon, on en fait une, deux, trois, et après ça passe plus, quoi. Quand on en fait, quand même, il avait quand même une bonne liste de courses, c'est qu'il y avait quelque chose de professionnel dans l'approche. Donc,
parce que à 18 ans, vous fumiez des pétards à l'époque, vous étiez dans un trip, hein, faut quand même dire, j'ai pas tout raconté, mais il y avait les pétards, il y avait la musique, il y avait les filles, hein, c'était jamais les mêmes, c'était tous les soirs une différente, vous étiez des séducteurs, c'était la belle vie. Mais est-ce que dedans, il y avait un côté roulette russe? Et il y a toujours une balle dans le barillet.
Ouais, je dirais que le côté roulette russe, c'est plus, je dirais, dans le freeride classique où, lorsqu'on sort et qu'il y a beaucoup de neige, en fait, où c'est plutôt du plaisir, plus que de la pentrée de la montagne. Quand c'est avalancheux, oui, là, il y a le côté roulette russe, ça, c'est sûr. Quand il a neigé 50 cm de neige, si on veut être un bon père de famille, on sort pas, ça, c'est sûr. Après, quand c'est de la montagne un peu plus raide, là, on y va quand les conditions sont plutôt pas moins avalancheuses, voilà. C'est vraiment la neige, plus on vieillit et plus on fait attention à ce manteau qui est vraiment instable et difficile à décrypter, quoi. Là, c'est là le côté roulette russe, en fait.
Cette conquête de l'Everest en snow, on parle toujours de la descente de Marco, sa première descente par le Norton, qui est fascinante, 4 heures pour se retrouver en bas. Mais on raconte moins la montée. En vérité, c'était avant tout un immense alpiniste avant d'être un snowboarder.
En fait, il est devenu alpiniste de fait, en fait, parce que lorsqu'on veut faire
des si on veut descendre, faut monter, quoi.
Voilà, surtout en altitude. Donc, encore dans les Alpes ou dans d'autres massifs en Alaska ou autre, on pourrait se permettre de prendre tout le temps l'hélicoptère, en fait, voilà. Mais après, dès qu'on dépasse certaines altitudes et certaines en allant dans certains massifs, on est obligé de...
L'hélico, il ne monte pas sur l'Everest.
L'hélico, il ne monte pas, hein, tout à fait. Même, il n'y a pas de dépose au-dessus de 6000 mètres. Donc, tout ce qu'il a fait, 6, 7, 8, presque 9000. Là, il est allé par ses propres moyens, quoi.
Il avait réalisé un premier exploit avec la descente par le couloir Norton. Pourquoi est-ce qu'il veut recommencer par le Hornet?
Eh ben, c'est ce que ses sponsors, c'est la question que ses sponsors lui ont posée avant de repartir.
C'est pour ça qu'ils l'ont pas financé.
Exactement, parce qu'en fait, un célèbre skieur lui a dit, mais avec ce que tu viens de faire, en fait, tu peux survivre ou vivre, bien vivre pendant 10 ans. Et ouais. Lui, son...
De ta légende.
Ouais, tout à fait, voilà, de son exploit, parce qu'on peut vraiment dire ça. Lui, son graal, ce qui fonctionnait par leitmotiv, c'était vraiment de faire la ligne directe qui part du sommet de l'Everest et qui va jusqu'en bas, quoi. Donc, tant qu'il n'avait pas fait Lord Byng, c'était pas... Il ne passait pas au projet suivant, en fait. Voilà.
Et est-ce que c'est parce que Boivin avait dit que ce n'était pas réalisable?
Peut-être aussi. Mais après, ça n'avait fait que renforcer son envie, en fait.
Est-ce qu'on n'est pas, alors... Parce qu'au fond, ce sport-là, celui qu'a pratiqué Marco, que vous pratiquez vous aussi, c'est un sport assez récent. Tout ça n'existait pas il y a combien de temps? Il y a quoi? 30 ans? C'est apparu dans les années 80?
On peut dire ça, ouais. Après, ouais. Le ski en montagne dans les couloirs existe depuis un peu plus longtemps que ça, une quarantaine d'années en fait. Mais plus ça va et plus on place la barre un peu plus haut. Quoi, en fait.
Alors c'est ça, c'est-à-dire que la barre est sans cesse remontée, mais il y a un moment où on ne peut plus la remonter, où ça dépasse les capacités humaines. Est-ce qu'on n'y est pas déjà arrivé, si vite en 30 ans?
Après, oui, dans les Alpes, on a vite presque saturé, même si maintenant, de nos jours, il y a encore des choses, de jolies choses qui se font. Maintenant, on transpose ça dans les massifs plus lointains et plus haut, du coup. Où là encore, on n'a pas trouvé, on ne fait pas aussi raide en XP que dans les Alpes.
Ouais.
Parce que, voilà, tout l'engagement qu'il y a avec, c'est souvent sur la durée en plus.
Mais est-ce que cette surenchère est peut-être sans fin? Ou est-ce qu'à un moment, il ne faut pas tirer un trait en disant « Bon, le freeride en surf en montagne, c'est bon, c'est fait. »
Non, je ne pense pas, parce qu'en alpinisme, on a dit à la fin des années 80, quand plein de gens en solo ont fait beaucoup de choses, on a dit « L'alpinisme est mort. » Et on voit, même en 2018, il y a beaucoup de choses qui se font encore plus techniques que ce qu'il y a qu'à l'époque. Donc, non, en XP, en Himalaya ou dans les Andes, il y a encore beaucoup de choses à faire et il faut pas dire que c'est terminé. Ouais. Parce qu'après, voilà, on peut pas dire, de toute façon, les aventures, il y en a tout le temps. Hein, donc, il suffit d'avoir un peu d'imagination et on en trouve. Hein.
Ah, il y a quelque chose qui a beaucoup contribué quand même, sont les progrès techniques. Parce qu'au fond, les surfs même, les snows ont évolué techniquement. On peut faire aujourd'hui des choses qu'on pouvait pas faire au début des années 80 sur un snow.
Oui, alors le matériel a évolué, mais c'est aussi surtout les mentalités en fait. Chaque fois, une personne comme Marco, ou ceux qui sont arrivés un peu après, on dit « Ah ben ça, moi je pense que je peux le faire », et hop, dès qu'on passe une barrière, on ouvre une boîte, et on ouvre une porte et après on va plus loin. Quoi. C'est le principe des gens qui poussent un peu plus que les autres quoi, en fait, qui pensaient que l'impossible était faisable.
Ça, vous en êtes où? Vous avez encore des objectifs, des défis, ou puisque vous êtes papa, tout ça est rangé dans une boîte?
Alors c'est pas rangé dans une boîte. Après, moi j'aime toujours aller en montagne, c'est sûr. Après, j'ai plus le même niveau qu'à l'époque et l'engagement. Donc après, par chance, moi j'ai un métier où je fais des films sur des aventuriers. En fait, j'aime bien les suivre à droite à gauche. J'aime ramener des histoires ou les raconter comme vous. Donc voilà. Après, je suis toujours un peu dans l'ombre. Moi, ça me va bien comme. Comme place. Mais...
La mort de Marco a changé votre vie de sportif?
Oui, on peut dire, oui, tout à fait. Après, de retrouver un autre collègue pour pousser si loin, en fait, le niveau, c'est difficile. Après, même si en snowboard, on n'est pas relié par une corde, voilà, il y a une espèce de lien qui se crée et du coup, c'est de retrouver les mêmes sensations ou le même sentiment, c'est pas évident.
Vous avez fait des promesses, peut-être?
Des promesses, non, mais après...
À votre femme, à vos enfants?
Mes enfants n'étaient pas encore là. Ma femme doit être contente que j'ai un peu bifurqué. Mais après, voilà, c'est des époques. Et puis après, on évolue vers d'autres attentes.
Une dernière question. Est-ce qu'il serait content, Marco Siffredi, qu'on parle de lui aujourd'hui?
Oui, je pense, parce que mine de rien, il aimait bien qu'on raconte des choses juste, entre guillemets, et pas ni galvaudées, ni sans surenchère, en fait. Donc, il n'était pas forcément fan des médias, mais toujours, comme tout un chacun, on est content quand on...
Il avait un petit égo quand même, parce que oui. Quand M6 part, l'accompagne là-bas en Bolivie, il est content.
Oui, oui, tout à fait. Non, non, mais ça, c'est sûr. Surtout qu'il avait quand même une vision assez professionnelle. Donc, si on parle de moi, je pourrais peut-être glaner 3 sous pour m'aider à aller plus loin, quoi. Mais j'aime bien raconter une anecdote. C'est après son premier Everest, en fait, une chaîne assez connue lui a demandé de faire un plateau à 20h. Et c'est tombé le même jour qu'un concert d'ACDC. Ouais, ouais. Donc, non, il a décliné l'offre parce que c'était vraiment plus important d'aller voir.
Il a préféré aller au concert qu'aux 20h.
Exactement, ouais. Tout à fait.
C'était sur TF1. Ou à France 2, je crois.
Ouais, une des
Antenne 2,
ouais.
On disait à l'époque. Ouais. Voilà, bon, bah écoutez, merci. Merci Bertrand Delapierre d'avoir fait revivre quelques instants Marco Siffredi. Je renvoie tous nos auditeurs aux deux documents qui m'ont permis d'écrire cette histoire. D'abord et avant tout le livre d'Antoine Chandelier qui s'appelle La trace de l'ange, qui est publié aux éditions Guérin, qui est un livre de 2017, donc qu'on trouve assez facilement. Et ce coffret Marco Siffredi dans la collection Montagne. Bon, il est diffusé à Grenoble, mais je pense que si on scoltine internet pendant une ou deux minutes, on doit pouvoir le trouver quelque part et pouvoir se le procurer. Merci Bertrand Delapierre.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.